France Bleu, dans le rétro l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut, bienvenue dans le rétro, c'est votre podcast. Moi, c'est Déborah Grunewald, merci de votre fidélité. Si vous nous découvrez chaque semaine, on embarque pour un voyage dans le temps, un voyage qu'on fait avec un invité. On revient sur sa vie, son parcours, on lui pose des questions que nous aussi, on se pose. Des questions sur le sens de leur œuvre, sur le sens de la vie. Aujourd'hui, nous sommes avec une artiste plurielle, indomptable, insaisissable. Elle séduit et bouscule dans ses films, dans sa musique. Elle n'a peur de rien et est complètement starbée. Mon invité aujourd'hui, c'est Camélia Jordan. Passé, présent, futur, c'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Camélia Jordana.
Bonjour.
Alors, elle est complètement starbée, c'est Amel Bent qui le dit, moi je me permettrai pas.
Elle dit ça, Amel.
Ouais.
Yes.
En même temps, je pourrais me permettre de le dire parce qu'ici on se dit tout en fait, on
Mais
est
disons,
en mode tranquille.
Disons, il n'y a pas de problème. Ça fait rire qu'Amel dise ça, ouais.
Pourquoi?
Amel Bent. Bah parce que je l'aime très fort et que je la trouve aussi complètement starbée. Je l'admire énormément. On se voit peu, on a des vies de folle et de fou, mais.
Et pourquoi elle dit que vous êtes starbée d'ailleurs?
Mais je sais pas moi. J'aimerais bien. Elle a pas détaillé. Elle
faudra,
a juste
non,
dit ça.
Faudra lui demander.
Je vais lui demander alors. J'aimerais bien savoir. Non mais parce qu'en plus on se connaît à des endroits hyper intimes quoi. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés en studio ensemble, on s'est raconté nos vies, on s'est raconté des trucs qu'on a raconté à personne d'autre quoi. Donc je sais pas pourquoi.
Donc une amie alors. Amie.
Ouais, on est amis, mais ouais. On se voit pas. Vous savez, vous en savez quelque chose, hein, avec nos vies. Parfois, il y a des gens qu'on a dans le cœur, mais qu'on voit trop peu. Bah, Amel, elle en fait partie.
Camélia Jordana, vous êtes Amel dans le film Reine-mère de Manel Labidi. Amel vit avec son mari, Amor, et ses deux filles, Kenza et Mouna, dans un studio des beaux quartiers. Alors que la famille est menacée de devoir quitter leur appart, une des filles a des visions. Elle est poursuivie par Charles Martel, qui a arrêté les Arabes à Poitiers en 732. Est-ce que ce film, il a touché une corde sensible chez vous?
Oui, complètement.
Je m'en doutais un peu.
Et pas qu'une, si vous voulez tout savoir. Oui, il m'a bouleversée, ce film. Il m'a déplacée à beaucoup d'endroits différents. Parce que j'étais à la fois troublée par les ressemblances que je pouvais trouver entre ce personnage féminin et ma mère. Mmh. Et entre le personnage de la petite fille et moi-même. Je me reconnaissais aussi dans le personnage de la mère à des endroits alors que je ne suis pas mère. C'est comme si Manel, la réalisatrice qui a écrit le scénario aussi, c'est comme si elle me réparait à un endroit intime.
À quel endroit elle vous réparait?
Déjà, elle a, vous savez, c'est comme quand vous êtes en thérapie presque et que votre thérapeute arrive à vous sortir une scène de votre enfance à laquelle vous n'avez pas pensé depuis. Eh bien, Charles Martel arrêta les Arabes à Poitiers en 732, ça fait partie de ces moments-là auxquels je n'avais jamais repensé, mais pour lesquels finalement... On peut se dire avec le temps, mais waouh! Oui, en effet, j'ai vécu ça comme la petite Mouna le vit dans le film. C'est-à-dire que c'est une phrase très violente quand on est perçu comme arabe. Et en fait...
C'est quoi cette phrase?
Charles Martel arrêta les Arabes à Poitiers en 732. Et c'est vrai que du coup, je trouve ça très intelligent de la part de Manel d'avoir fait du coup de Charles Martel un ami imaginaire finalement.
Et... Alors que c'est un personnage d'ailleurs qui est censé détester les Arabes.
Oui, c'est-à-dire que moi, gamine, quand j'entends cette phrase, des amis imaginaires, j'en avais beaucoup, je peux vous dire qu'il n'y avait pas Charles Martel dans l'eau. Et pour le coup, Manel a réussi à jouer de ça, aussi parce qu'en écrivant le scénario, elle a beaucoup fait de recherches au sujet de ce Charles Martel, justement. Et elle s'est rendue compte que absolument tous les historiens, y compris les spécialistes de Charles Martel, affirmaient que c'était une espèce de propagande folle autour de ce personnage. Il n'y avait pas d'invasion, cette personne ne portait pas de couronne, il n'y avait pas des millions d'Arabes, enfin ça n'avait rien à voir.
Camélia Jordana, je vous propose d'écouter justement l'écrivain algérien Kateb Yassine qui parle de l'enseignement. Il a été au lycée Sétif avant que l'Algérie devienne indépendante. Écoutez.
Quand on nous enseignait l'histoire, justement, on arrivait à des points où je voyais bien que c'était menteur leur truc. Ce qu'ils nous enseignaient, c'était des mensonges. Ils s'ingéniaient à nous faire croire qu'on était français. Ils nous enseignaient donc l'histoire de France. Et nous, on sentait bien que c'était faux, puisque les Français se comportaient avec nous d'une manière telle qu'ils nous faisaient sentir qu'on n'était pas Français.
Ça résonne particulièrement avec le film, ce qu'il est en train de dire.
Oui, après, Kateb Yassine, il parle d'un contexte qui est quand même extrêmement différent. C'est-à-dire que lui, il parle en tant qu'Algérien colonisé. Mouna et Amel et leur famille, elles, sont dans les années 90 en France. En fait, ce qui est troublant d'ailleurs par rapport à ce Charles Martel, justement, si on y revient, c'est que... Et c'est d'ailleurs ce que raconte Manel dans le film, c'est qu'en fait, c'est très difficile de trouver même de la documentation à son sujet. Et quand elle le fait, Mouna, quand elle finit par trouver toutes ces informations à son sujet, elle réalise. Et en fait, c'est comme ça que Manel a construit. À la base, ça devait être un ennemi imaginaire quand Manel a pensé ce scénario. Et puis elle-même, en se renseignant, elle s'est dit, mais en fait, pas du tout. Si ce pauvre Charles était à nouveau parmi nous aujourd'hui, il verrait l'espèce de pantin qu'il est devenu, d'une espèce de propagande. Vous savez que beaucoup d'identitaires se sont réappropriés. Et elle s'est dit, mais en fait, lui-même, il aurait une crise identitaire, comme Mouna. Mmh. Donc en fait, ils vont être alliés tous les deux dans leur crise identitaire.
Reine-mère, Camélia Jordana, c'est une comédie pleine d'humour qui questionne aussi. C'est quoi ces questions, par exemple, que le film pose ?
Déjà, dans un premier temps, il y a une chose très universelle dans le film qui, moi, m'a énormément touchée, qui est cette chose qu'on appelle la famille.
Ouais.
C'est-à-dire que la famille, voilà, il y a ce personnage féminin, magnifique, qui est Amel, qui est un vrai cadeau. Et le cadeau aussi qu'elle m'a fait, c'est de pouvoir jouer, incarner cette famille aux côtés de Sofiane Zermani. On joue un couple, mari et femme, un couple d'immigrés qui vit dans cette jolie ville. Et c'est vrai qu'en créant ça, Manel a quand même réussi à raconter un récit que moi je n'avais encore jamais vu, mais dans lequel nous nous sommes tous et toutes reconnus. Toutes les personnes qui travaillaient sur le film, parce qu'il s'agit d'une famille qui galère et qui essaie de s'en sortir, c'est-à-dire que le film ne parle pas exclusivement de racisme ordinaire, dont Mouna est l'objet à l'école quand on lui fait chanter l'équivalent de la Zoubida, etc. Enfin, c'est, à côté de ça, c'est quand même des questions sociales aussi qui sont soulevées dans le film. Il y a la question du logement, il y a la question de l'éducation, et ça, peu importe la couleur de votre peau, votre ethnicité, c'est un sujet, ça fait partie de la société dans les années 90 comme aujourd'hui. Et en même temps, c'est vrai que Sofiane Zermani, Manel Labidi et moi, et Touria Faouzi d'ailleurs, la mère des petites filles qui jouent mes filles, que j'embrasse très fort, Rim et Rita, en fait, on s'est tous et toutes dit, mais ce couple-là, c'est nos parents. Manel, elle disait, je veux qu'il y ait de la libido entre eux, alors qu'il n'y a pas un seul baiser pendant tout le film. Mais on sent que c'est un couple qui est très amoureux, qui est vivant, et en même temps, voilà, on voit cette femme qui est pleine de fantaisie. Et pour autant, un mari algérien, amoureux, qui se démène au quotidien, qui connaît la fantaisie et la folie de sa femme, et qui presque en fait fi et décide de dealer avec et qui va se démener simplement pour la rendre heureuse.
Ici, dans le rétro.
Allez, c'est parti, on démarre notre voyage dans le temps. Vous naissez à Toulon, vous grandissez à La Londe-les-Morts dans le sud. Votre père est patron d'une boîte de transport de béton. Votre maman est thérapeute en développement personnel. Enfance quoi ? Heureuse, facile, difficile, mouvementée ?
Très joyeuse, très mouvementée, très nourrissante, pleine d'amour, pleine d'enfants, pleine de nature.
Le développement personnel, ça aide à se connaître, c'était le travail de votre maman, à être bien aussi avec soi-même. Est-ce qu'enfant déjà, vous aviez certaines clés que d'autres ont mis parfois du temps à trouver?
Oui, voire même qu'ils n'ont toujours pas trouvé d'ailleurs. Ouais. Et il y en a d'autres que moi-même, je continue de chercher, attention. Mais, bien sûr, bah, j'ai eu la chance quand même de grandir avec une mère thérapeute très sensible à, voilà, aux questions de la psychologie, du développement du cerveau, de la construction, de la thérapie, du développement personnel, l'expression de ses sentiments, etc. J'ai eu par exemple la chance de grandir quand même dans les années 90 et 2000 avec l'outil qu'est la communication non violente. Ça, c'est quand même un acquis exceptionnel dans la vie en général. Et alors, quand on a ça dès le début, dès enfant, ça change un peu tout quand même.
C'est l'éducation positive aussi, c'est ça ?
La communication non violente, en gros, le principe de la communication non violente, l'un des principes, c'est quand même toujours de parler de ce qu'on ressent plutôt que d'expliquer à l'autre ce qu'il ou elle fait mal. Ou quand tu fais ça, moi, ça me fait ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte que ça n'arrive plus, quoi.
Ça veut dire qu'il n'y avait jamais d'engueulade avec vos parents ?
Oh là,
vous êtes jamais
malheureuse,
fait engueuler ?
On est en Méditerranée quand même, hein. Tout de suite, les grands mots.
Alors Camélia Jordana, vous avez vu des psys très jeunes.
Ouais.
La thérapie, ça permet de se comprendre.
Oui, ça permet de se rencontrer, de comprendre comment son cerveau est structuré justement. Qu'est-ce qui a été compliqué dans la construction de notre cerveau quand on était gamin, gamine entre 0 et 3 ans ? Qu'est-ce qui est allé se nicher de manière inconsciente ? Comment les gens autour de nous ont réagi ? Comment nous, du coup, on s'est positionné par mécanisme de protection, etc. Et donc identifier un peu ce qui est ancré en nous, ce qui nous appartient, ce qui nous appartient pas, ce qui nous a été transmis, ce qu'on choisit de garder et ce qu'on choisit de dropper sur le côté, quoi.
Ce qui nous appartient pas, ça veut dire qu'on on apprend à s'en débarrasser, est-ce qu'on y arrive ?
Ah oui, bah, tant qu'à faire, qu'on travaille, oui, si peut y avoir un peu de résultat à la fin, c'est sympatoche quand même. Oui, bien sûr, ouais. La chance que j'ai et que beaucoup d'amis à moi ont, c'est que quand on trouve un ou une bonne thérapeute, pour ma part avec Sylvie Lemerer, qui est une sorcière extraordinaire, qui est une thérapeute, c'est qu'en effet, on se retrouve en effet à se déplacer. On récupère son libre arbitre, c'est-à-dire que je considère personnellement qu'un ou une bonne thérapeute nous permet de nous rapprocher de nous-mêmes, en fait. Donc oui, on sent l'évolution, sinon c'est qu'on n'est peut-être pas avec la bonne personne.
Je peux me permettre de vous demander sur quoi, par exemple, vous avez travaillé ?
Oh,
de
bah
quoi
tout,
vous vous êtes débarrassé
si vous saviez.
Il y en a pour 3 heures, c'est ça ? Allez-y, allongez-vous.
Ah bah, si vous voulez, j'ai commencé quand j'avais 8 ans, donc oui, il y a de quoi faire. Mais sur quoi j'ai travaillé ? Mais sur tellement de choses. Mon sentiment d'illégitimité, mon impatience, mon rapport à l'incohérence, mon rapport à la violence, mon rapport à la colère, mon rapport à la joie, mon rapport à la créativité, à l'expression, à la considération de l'autre, au management de mes équipes, à la gestion des égos, beaucoup de choses, ouais.
Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes heureuse et épanouie ?
Ouais, je me sens bien alignée avec moi-même aujourd'hui, ouais. Je suis assez heureuse et je me sens assez épanouie. Après, j'ai l'impression que c'est des instants comme ça. Je me sens bien dans ma vie, j'aime la personne que je suis, j'aime la vie que je me suis construite pendant ces 15 années, 16 années de vie d'adulte.
Vous avez toujours aimé la personne que
non,
vous avez
justement,
été, ou
et
pas.
Ça, je pense que
et
c'était le plus gros travail. Ah ben ça, les thérapeutes, on retombe dessus. Ça a été le plus gros travail, je pense. Et attention, c'est le travail d'une vie. Hein. Ouais. C'est pas du tout. J'ai pas le sentiment que ce soit une chose qu'on acquiert et puis après, paf, c'est fait. C'est vraiment parce qu'on évolue. Donc il faut continuer d'aimer tout ce qui évolue, tout ce qui change, tout ce qui reste, tout ce qui part, etc. Et d'accepter. Mais je pense que ça a été ça mon plus gros travail en thérapie, ouais, d'apprendre à m'aimer et à accepter que je suis une personne chouette.
Mais c'est bien de pouvoir se dire ça.
Ah oui, mais je pense que c'est essentiel pour aller bien dans la vie. Et je suis pas du tout en train de dire je suis mieux que les autres.
Ouais, c'est ça la différence.
C'est ça la différence, c'est que en fait je m'aime bien et c'est simplement que sur les 100% d'amour que j'ai donné toute ma vie à tout le monde autour de moi, j'en ai pris 10% et je les ai tournés vers moi-même. Et du coup, j'apprends à prendre soin de moi aussi. Ça s'apprend et c'est très, très important. Et ça permet en plus, du coup, d'encore mieux prendre soin des gens autour de soi.
Et c'est apprendre aussi à aimer nos défauts parfois.
Oui, bah c'est, ouais, ce ouais, c'est
lesquels,
inévitable.
Vous
oh, mon impatience. Alors, c'est marrant parce que je suis à la fois très patiente, à la fois complètement impatiente. C'est-à-dire que je suis très patiente quand il s'agit de projets, d'investissements me concernant sur des choses que j'ai envie d'atteindre dans la vie, etc. Voilà, sur du long terme, je suis très patiente. Mmh. Résiliente même. En revanche, je suis d'une impatience folle avec les toutes petites choses à la con.
Du genre.
Bah, du genre, c'est l'heure de partir, je trouve pas mes clés, je trouve pas mon téléphone, je cherche des affaires que je trouve pas, ça me fait monter.
Ah, mais ça, c'est parce que vous êtes tête en l'air. C'est parce
non,
que vous
parce
avez
que je suis très organisée. Non, mais parce que je suis quand même très organisée aussi. Mais ouais, c'est un mélange de ça et de... je sais pas. Ouais, je sais pas.
Par exemple, vous étiez super impatiente de venir dans l'émission aussi.
Exactement. Parfaitement.
Camélia Jordana, on va continuer ce voyage à téléportation. Oui. Nous sommes avec vos cousins, vos cousines. C'est le goûter chez votre grand-mère qui vous beurre des tartines avec ses pousses. Ces tartines, vous les trempez dans le thé à la menthe. Si on parle de vos grands-parents, on peut dire qu'ils étaient algériens et résistants. Ils ont milité pour l'indépendance de l'Algérie. Est-ce que vous en parliez de ces combats quand vous étiez enfant ?
Pas du tout. J'ai appris le degré d'implication de mes deux grands-pères dans la résistance très tard. Quand on est issu de cette histoire-là, la question de la langue est un vrai sujet. Moi, j'apprends le darija, l'arabe algérien, seulement aujourd'hui, à 32 ans, parce que j'en ai besoin, que j'en ai envie, et que j'ai envie de pouvoir échanger aussi dans cette langue avec ma grand-mère, même si elle parle super bien français. Mmh. Mais voilà, vous savez que la pensée, la langue structure la pensée. Et du coup, j'ai envie de pouvoir aussi comprendre la structure de la pensée de ma grand-mère, qui a pensé toute sa vie dans une autre langue, quoi.
Ouais.
Et pour l'instant, j'en suis qu'au darija et j'espère bientôt pouvoir apprendre aussi le kabyle, qui fait aussi partie de ma culture.
Camélia Jordana, l'Algérie, c'est un pays cher à votre cœur. D'ailleurs, il y a eu ce film Les Tempêtes, dans lequel vous incarnez une revenante, Fajar, assassinée pendant la guerre civile et la décennie noire dans les années 90. Ce film s'intéresse à la réconciliation d'un peuple et d'une nation. Mais c'est pas de ça dont je veux parler. Ce film, il aborde aussi des thèmes universels, la mémoire, le deuil. Quel rapport vous avez avec la mort ? Elle vous fait peur ?
Vous avez 2 heures. Non. La mort, c'est pas une chose qui me fait peur. J'ai eu la chance de grandir dans l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. J'ai des croyances qui empruntent des choses un peu partout. Mmh. Et donc la spiritualité fait partie de ma vie au quotidien. Et donc le rapport que j'ai à la mort, il est... Non, j'ai pas peur de la mort. J'ai l'impression que ça fait partie du chemin. Alors j'espère évidemment que ça arrive dans les vies des gens que j'aime et dans la mienne le plus tard possible. Mais je considère que c'est pas une fin en soi.
C'est peut-être une question d'âge aussi, non ? Quand on est jeune, on n'y pense pas forcément. On n'a pas peur finalement, parce que ça paraît loin.
Ça me paraît pas loin en fait. Pour le coup, j'ai le sentiment que ça peut arriver un peu comme ça, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que J'ai le sentiment qu'il se passe plein de choses après aussi et que c'est pas une fin en soi. Je crois en la réincarnation, je crois en plein de choses. Et puis, quand des gens que j'aime quittent ce monde, généralement, ils continuent de m'accompagner.
Comment ?
Bah, ils me rendent visite dans des rêves, dans des synchronicités. Enfin, voilà, j'ai l'impression d'être... Et puis, je les porte en moi. Quand on aime les gens, on les porte en soi, qu'ils soient vivants ou non. Donc, voilà, ça, évidemment, ça n'enlève rien à la tristesse, au chagrin et au deuil de dire au revoir à quelqu'un dans ce monde-là. Mais c'est pas une chose qui m'effraie, non.
Vous dites, Camélia Jordana, que vous avez une bonne étoile. C'est qui ? C'est quoi, cette bonne étoile ?
Je pense que c'est mes ancêtres. Je pense que c'est un petit meeting. Ouais, je pense que c'est mes ancêtres qui travaillent.
Nous sommes dans la voiture de votre père. Vous avez une dizaine d'années. Il écoute What a Wonderful Life, Louis Armstrong, sur un CD de standard de jazz. Vous lui piquez l'album pour l'écouter sur la chaîne qu'il vous a offert pour vos 10 ans. À cette époque, vous vous imaginez faire quoi de votre vie ?
À 10 ans pile, je regarde Moulin Rouge tous les jours et je veux devenir Nicole Kidman, mais dans Moulin Rouge. Donc je veux devenir danseuse au Moulin Rouge, vivre à Paris... Et être grande et rousse. C'est ça mon projet de vie à ce moment-là.
C'est avec ce morceau What a Wonderful Life que vous allez passer le casting de La Nouvelle Star en 2009.
Bonjour mademoiselle. Votre prénom ?
Camélia Jordana.
Camélia, très jolie. Vous avez quel âge ?
J'ai 16 ans.
Et vous allez nous chanter quoi ?
Je vais essayer de vous interpréter la chanson de Louis Armstrong, What a Wonderful World.
Waouh. Wow. Sacré pareil, non ?
I see trees of green, red roses too. I see their bloom for me and you.
Alors le jury délibère.
Quelle présence, quelle fille formidable, quel timbre de voix génial. Top, allez, pars à Paris, Camélia, c'est super.
16 ans.
Une enfant, quoi.
Mais oui,
j'ai vraiment une
et
voix
ça s'entend
d'enfant.
Dans la voix.
Ah ouais, ouais. J'ai une voix d'enfant, ouais. J'ai perdu 2 octaves entre-temps.
Dans l'émission Camélia Jordana, il y a aussi votre réaction.
C'est un joli début d'expérience. J'espère que ça ira loin.
Et c'est aussi la première fois que son papa la félicite après qu'elle ait chanté. On progresse.
Rassurez ma fille.
C'est la première fois que son papa la félicite. C'est vrai, c'était
après
pas
qu'elle
de la
chanté.
Maison.
Non, ils se disent après qu'elle ait chanté. Bah, c'est surtout que je chantais tout le temps, en fait. Mais vous imaginez pas la souffrance, franchement. Non, mais sérieusement, je le sais. Enfin, être avec quelqu'un qui chante tout le temps, ça rend fou. C'est-à-dire qu'il y a jamais de silence. Jamais, jamais, jamais. Donc, non, quand je chantais, on me demandait d'arrêter, quoi. Parce que c'était trop. C'était tout le temps, 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 tout le temps. C'était un point de négociation avec mes tantes pour que je puisse partir avec elles en week-end.
C'est-à-dire point de négociation, c'est-à-dire.
Bah, c'est-à-dire que ma tante Karine Mac, j'embrasse
si tu veux
très, très, très fort. Avec ma cousine Miliana, sa fille, que j'embrasse aussi très, très fort. En fait, le pour que ma tante puisse m'embarquer en week-end pour passer le week-end avec elle, elle me disait d'accord, mais tu ne chantes pas. Et je dis, oui, tata, promis. Et on était dans sa voiture, dans son Kangoo. Et on n'avait pas passé le portail que j'étais déjà en train de chanter. Mais si vous voulez, je m'en rendais même pas compte. Je chantais sans cesse. Donc non, le pauvre, non, je comprends qu'il y ait autre chose à faire que de me dire bravo à chaque fois que je... Non, 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 ça ne marchait pas.
Camélia Jordana, vous finissez troisième de la compétition alors que vous étiez la favorite. C'est finalement Sohan qui gagnera Nouvelle Star face à Laila Essaoui. Dernièrement, il y a eu la finale de la Starac. Ebony, une des candidates, a été victime d'attaques violentes avec des appels carrément pour la faire perdre face à Marine, l'autre finaliste. Votez tout, sauf pour le macaque. Je ne veux plus la voir, cette guenon, ou encore, c'est pas Star Academy, c'est Bamako. On en est là dans les commentaires aujourd'hui. J'imagine que ça, c'est un sujet vraiment pour vous.
Lequel ?
La discrimination.
Parce qu'il y en a beaucoup,
mais...
là.
Alors, lesquels, tiens. Alors, lesquels, justement ?
Qu'est-ce que, quel, quoi ? Quelle est la question ?
Les problèmes. Je sais pas, en fait, je vous pose une question, mais c'est vrai que la question était ouverte, donc ça voulait rien dire. Non, mais en gros... Non, mais... On peut se le dire, je vous ai dit, on se dit tout, je vous traite de starbé, vous pouvez me dire ta question est naze, il n'y a pas de problème, c'est vrai.
Je n'irai pas jusque là. Donc... Non mais j'aimerais vous répondre, quelle est la question ?
De voir cette haine aujourd'hui se développer sur les réseaux sociaux, de telles paroles aujourd'hui, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler de cette histoire. Ah non, il n'y a toujours pas de question là,
bah
c'est
non.
ça ?
Pardon, mais là non, excusez-moi, il n'y avait pas de point d'interrogation dans cette
Alors
phrase,
j'en ai
désolée.
Une, j'en ai une. Est-ce que par exemple ça vous est déjà arrivé ?
Ah oui, mais moi ça m'arrive dès que j'existe dans les médias, tout le temps, à chaque fois.
Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qui vous a profondément atteint ? S'il y a quelque chose qui vous a atteint, parce que c'est peut-être pas forcément le cas.
Une chose qui m'atteint, c'est quand ça touche à mon travail, qu'on me critique par rapport à mon travail, j'ai pas de problème avec ça, je suis artiste, ça fait partie du jeu et il y a pas de problème. En revanche, quand des threads comme ça, fascistes, visent une œuvre et que l'œuvre en pâtit, ça, je trouve ça vraiment injuste.
Ça vous touche plus quand ça concerne une œuvre que quand ça vous concerne vous, en tant que personne ?
Ah oui, parce que si vous voulez, moi, quand j'ai commencé, j'avais 16 ans. Donc, j'ai eu cette chance-là que de mener ma vie d'artiste très tôt. Donc, en fait, moi, les gens qui n'aiment pas ou qui m'insultent ou qui truquent, en fait, ça fait un moment, quoi. Vous voyez, maintenant, si vous voulez, moi, ce qui m'interroge, c'est qu'est-ce qu'on fait, du coup ? J'en profite d'ailleurs pour embrasser très fort Ebony et la féliciter pour son parcours magnifique et sa voix extraordinaire. Elle sait combien je l'aime et combien je la soutiens. Mais enfin, ce que je veux dire, je vous remercie de poser la question parce qu'en effet, ça mérite réflexion en fait en tant que communauté, en tant que société. Qu'est-ce qu'on fait du coup ?
Il y a une façon de se protéger, de se dire bon bah là je mets à distance tout ça ou je regarde pas les réseaux ou...
Alors Ebony, elle, je sais pas comment elle deal avec ça, mais pour l'avoir vécu aussi
c'est pour ça.
À plusieurs reprises ces dernières années, enfin à chaque fois que je sors un projet quel qu'il soit, moi ce que je fais généralement c'est que j'ai la chance d'être entourée de gens en fait, donc être dans la vraie vie ça aide beaucoup. Maintenant voilà, je reviens à votre question que j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait ?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait en tant que société ? Parce que si vous voulez, les lois, elles existent déjà. Hein. Le racisme, c'est un délit, en fait. C'est pas des opinions. C'est illégal, en fait. C'est puni par la loi. La question, c'est du coup, comment on rend justice et comment on se protège, en fait, entre nous, en tant que société ? Comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas, peut-être, que les personnes racisées auxquelles on pose ces questions-là ? Comment on fait pour que les personnes pas racisées... puissent elles aussi monter au front en disant qu'elles sont pas d'accord, que ça les touche aussi. Ou... Voilà, la question c'est comment on fait ? Venez, on y pense quoi. Je trouve ça trop chouette que vous posiez cette question.
Vous avez le sentiment qu'il y a de plus en plus de remarques et d'insultes ?
Je saurais pas vous dire parce que moi j'y ai toujours eu droit, donc je me rends pas compte.
Bon, on n'est pas compte, ouais.
Non. Je pense qu'il y en a, oui, peut-être avec le temps, il y en a un peu plus. Forcément, vu l'actualité politique de notre pays, l'actualité politique de la politique internationale aussi, évidemment. Mais pour être transparente, moi je les ai toujours... reçu ces remarques-là, donc...
Est-ce qu'il y a une remarque qui vous a plus blessé qu'une autre, qui vous a vraiment marqué, qui vous a fait vous poser des questions sur qui vous êtes, ce que vous êtes ?
Non.
Non.
Non, non, grâce au ciel, j'ai assez travaillé sur moi pour que les fachos n'aient pas ce pouvoir me concernant. Non.
Camélia Jordana, on part en 2010. On découvre alors votre premier album.
Je ne veux pas prendre l'air, non, 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 non.
Non, 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 c'est accepter d'être fragile, accepter de flancher, de déprimer. En général, vous avez l'impression qu'on s'interdit tout ça.
J'ai l'impression qu'on est quand même... déjà, en tant que femme, on ne s'autorise pas trop à flancher, étant donné que quand même, on sait qu'on a eu des... J'ai l'impression qu'on a quand même reçu une éducation de la société, de nos parents, et voilà, des milieux dans lesquels on évolue, qui nous encouragent à être fortes, à tenir. Et... Parce qu'en plus, on sait qu'on peut le faire. Mais c'est vrai que la joie de découvrir qu'on peut être fragile et se l'autoriser, c'est un vrai cadeau, quoi. De toute façon, quand on est femme, on est une superwoman quoi qu'il arrive. Donc, en effet, moi j'aurais plutôt tendance à nous encourager à se laisser tranquille quoi.
On est trop exigeante avec nous-mêmes.
Enfin, on est trop exigeante avec nous-mêmes parce que le monde extérieur est beaucoup trop exigeant avec nous. C'est quand même, c'est pas inné, hein.
Camélia Jordana, sur ce titre Non, 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 c'est aussi envoyer balader ses potes, ses proches qui pourtant veulent nous aider, comme si ça faisait du bien d'aller mal.
Pardon, j'ai pas compris. Mon cerveau a bugué. Vraiment, il y a eu un...
Là, je disais,
il est revenu à lui-même, mais trop tard, quoi. C'était... Ouh. Pardon. Ça y est, je suis de
c'est
retour.
Bon, allez, on voilà. Peut y aller.
Pardon.
Sur ce titre, Non, non, non,
oui.
C'est aussi envoyer balader ses potes, c'est envoyer balader ses proches, qui pourtant veulent nous aider, parfois comme si ça faisait du bien d'avoir mal. Il faut accepter ces moments.
J'ai l'impression qu'avec le temps, moi j'ai tendance à accepter ça, et ça me fait beaucoup de bien. Je trouve ça plus sain de faire face à ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, pour du coup après pouvoir passer à autre chose plus rapidement. Moi, me concernant, je sais que je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que si je garde tout en moi comme ça et que je me dis non, non, mais c'est bon, ça va passer. En fait, ça finit par ressortir sous une autre forme, ailleurs. C'est déplacé, quoi. C'est pas au bon endroit, au bon moment. Donc, j'ai plutôt tendance à m'autoriser ça et à encourager les gens autour de moi à traverser les petites tempêtes, quoi, qui font nos émotions.
Ici, dans le rétro.
Camélia Jordana, dans votre vie, il y a la musique, 5 albums, il y a le cinéma. Ça commence avec La stratégie de la poussette de Clément Michel en 2012. Il y a Bird People en 2014. Chercher la femme en 2016, Téléportation. Nous voici au cinéma. Sur l'écran, le film Le Brio d'Yvan Attal avec Daniel Auteuil et vous.
Fatima, comment vous m'avez appelé là ?
Quand allez-vous vous débarrasser de votre accoutrement de banlieusarde informe ?
Vous savez quoi ? Je vous aime pas.
Non mais vous croyez quoi ? On n'est pas jugé sur son apparence ? Que la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance ? L'éloquence, la rhétorique, c'est précisément ça que je veux vous apprendre. Avoir raison. La vérité, on s'en fout.
Ouais, c'est bien ça.
Avoir raison, la vérité, on s'en fout. En fait, en maîtrisant l'art de persuader et de s'exprimer, on peut faire croire n'importe quoi. Vous trouvez que c'est une force ou c'est un danger ?
J'ai un rapport à la vérité assez important. Donc moi, j'ai plutôt tendance à me servir des mots comme d'un outil important pour pouvoir faire comprendre ce qui me paraît être juste et véritable. Quand on est, moi, je suis artiste indépendante, donc maintenant, forcément, j'ai une casquette de businesswoman où parfois je parle de mon travail comme d'un produit, mais parce que je suis obligée, parce que c'est moi qui fais ce travail-là maintenant.
Vous y arrivez ?
Que j'ai plus. Oui, bah ouais. Ça fait des années maintenant, donc j'ai été bien entraînée. Mais non, je pense pas qu'il faille mentir forcément pour vendre. Au contraire, je pense que le public a tendance à être plus touché par l'authenticité parce que du coup ça lui permet de s'identifier. Moi je sais que les artistes qui me touchent le plus c'est quand j'ai l'impression de toucher un endroit de vérité auquel ils me donnent accès. Donc j'ai plutôt tendance à cultiver ça, ouais.
Avec Le Brio, Camélia Jordana, vous obtenez le César du meilleur espoir féminin.
Le César du meilleur espoir féminin est attribué à Camélia Jordana dans Le Brio.
On est en 2018, cette année-là sort aussi votre troisième album Lost et en 2021 l'album Facile X Fragile, Facile fois Fragile.
Facile Fragile.
Parce qu'il y a un X au milieu, alors j'étais pas...
Ouais. Je comprends, c'est traître, je comprends.
Ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Silence, silence. Soyons fiers, chantons encore plus
l'époque de cet album Facile Fragile, vous doutez de beaucoup de choses. C'est important de douter, mais le doute, parfois, il peut nous faire renoncer. Est-ce que c'est votre cas ?
Ouais. Et heureusement, d'ailleurs, je pense. Ouais. C'est le doute, je trouve que c'est un allié hein, dans la vie. Après, j'essaye aussi d'écouter de plus en plus mon instinct. Et plus je l'écoute, moins je doute. Et du coup, moins j'ai besoin de tout remettre en question.
Ça vient avec l'expérience ? La confiance en
oui.
soi, le fait de s'aimer aussi.
Oui. Bah, de toute façon, oui, je crois que tout ça, c'est lié. Hein, mais on retombe dessus, quoi. J'ai l'impression qu'apprendre à se lâcher un peu la grappe, ça aide, quoi. Vraiment, à beaucoup d'endroits, y compris dans la question de la confiance en soi. Et puis aussi de... Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'erreurs, hein, pas du tout. Mais c'est juste que du coup, on ne les vit pas de la même manière. Mmh. C'est plus des enseignements. Et ça permet de faire un peu mieux la fois d'après. En se plantant à d'autres endroits, voilà.
On part maintenant qu'Amélia Jordana en 2021. On découvre votre 5e album.
Qu'est-ce que j'ai fait ? Où je vais ? Ce poème est un adieu à ce que j'étais. Trompé par mon cœur, trahi par ma sœur. La seule en qui j'avais foi, confiance, c'est celle qui m'a menti. Non.
Pendant la tournée promotionnelle de l'album Soror, Amel dit de vous « Je suis très admirative de la chanteuse, mais aussi de la femme qui est Camélia parce qu'elle n'a peur de rien. » Elle est complètement ch'tarbée. Est-ce que vous pensez qu'il faut être ch'tarbée, comme elle dit, pour n'avoir peur de rien ?
Je ne sais pas si j'ai peur de rien. Je pense qu'elle me voit avec beaucoup d'amour dans les yeux aussi. Je ne sais pas de quoi j'ai...
Mais c'est vrai qu'on a l'impression que vous n'avez peur de rien.
Ah bon ? Ah ouais, c'est vrai ?
Ah ouais ? Bah si, c'est vrai, je trouve que... Non mais sérieusement, il y en a qui pourraient se cacher derrière des apparences, derrière leur travail, mais vous êtes quand même une femme de conviction, vous savez, vous êtes capable de dire ce que vous pensez au moment où vous le pensez, vous êtes... Non mais sérieux ? Non, vous n'avez pas... Vous vous en rendez compte, non ?
Bah c'est qui je suis, donc j'avoue que je ne sais pas trop... Vous voyez, c'est... j'ai pas de point de comparaison...
Alors mais de quoi vous avez peur ? Vous dites, ouais, non mais bon...
De quoi j'ai peur dans la vie ?
Ouais.
De quoi j'ai peur ?
Et déjà, vous mettez du temps à répondre, donc ça prouve que...
Non, mais je pense que j'ai peur de plein de choses. C'est juste que vous, par exemple, vous avez peur de quoi, si je vous dis ça ?
Moi, j'ai peur de l'échec, par exemple.
Ok. Moi j'aime
j'ai
bien l'échec.
J'ai peur de déplaire, parfois.
Ah ouais.
Ah, y a du boulot. Là, vous me regardez, vous dites, ah ouais, t'as du boulot.
Non, pas du tout, je comprends, parce que je sais que moi, c'est un travail que j'ai dû faire il y a longtemps, d'accepter de déplaire, parce que quand on est artiste et qu'on est exposé, vous le savez, à partir du moment où on est exposé, on déplaît aussi, quoi.
Alors, vous avez peur de quoi ?
Alors, de quoi j'ai peur, du coup, dans tout ça ? Il y a une chose que je... Oh, de quoi j'ai peur ?
Non, mais vous voyez ? Non, mais sérieux ?
Mais non, mais si vous voulez, c'est une chose à laquelle on réfléchit pas tous les jours non plus, quoi.
Non, c'est sûr.
De quoi j'ai peur ? J'ai peur de pas réussir à trouver le temps de passer assez de temps avec mes grands-parents avant qu'ils ne soient plus de ce monde. Voilà, ça, c'est une chose qui me fait vraiment peur.
Et ça, vous pouvez en passer davantage ?
Oui, faut que je m'organise, quoi. Faut que...
Prendre le temps.
Ouais, mais c'est pas qu'une histoire de temps. Je trouve que c'est beaucoup lié à soi, en fait, aussi.
Par rapport à quoi ?
Je crois que c'est quand même très lié à l'histoire familiale, en fait, le lien qu'on engage avec ses grands-parents. Et attention, je suis en lien avec eux, on s'appelle régulièrement, on se voit, on s'aime très fort, on rigole, on est très complices, tout ça. Hein. Mais j'aimerais pouvoir le faire encore plus, quoi. Donc,
mais parce qu'il y a de la pudeur avec cette génération aussi ? Non, ça n'a rien à voir.
Non, moi, mes grands-parents, c'est des rockstars. Hein. Ma grand-mère, c'est une punk. Mon grand-père aussi. Ils sont trop stylés tous les deux. Non, il n'y a pas de pudeur, quoi. C'est-à-dire que c'est les premiers à me dire pense à toi, quoi. Ta carrière, c'est bien, mais pense à toi. Pense à faire des gosses. Et puis, si t'as pas envie de faire des gosses, bah, tu fais pas de gosses. Vraiment, ils sont. Et on parle de gens qui ont 84 et 89 ans, quand même. Hein.
Ouais.
Qui sont nés en Algérie il y a près de 90 ans. Donc, c'est quand même un mindset, quoi, de pouvoir, ouais. Pouvoir dire des choses comme ça à sa petite fille. mais non, c'est des gens très libres, au contraire, qui sont extrêmement cultivés. Ils m'apprennent des choses tout le temps, que ce soit sur la politique internationale, sur la nature. Quand je suis avec eux, au contraire, je me sens alignée et connectée. Et je trouve ça cohérent que ces gens-là soient mes grands-parents. Et je me trouve cohérente en tant que petite fille de ces gens.
Au cinéma, on découvre ce film avant que les flammes ne s'éteignent.
De violentes émeutes la nuit dernière dans la banlieue de Strasbourg après la mort d'un jeune homme.
Faut pas enterrer Karim demain. Une fois rendu à la famille, un corps peut plus faire l'objet d'un examen juridique.
Vous devriez prendre vos propres photos.
Nous aussi, on est de la famille. Il y a moyen d'annuler.
Ne récupère pas le corps. Je vous laisserai pas faire ces noms. Mais réveillez-vous.
On va pas se laisser faire.
Non.
Maître ?
Ah, madame Aliadari.
Vous connaissez mon cas ?
La crise d'épilepsie.
Non, mais c'est pas une crise d'épilepsie.
La police est hors de cause.
Il faut créer un mouvement.
Vous voulez faire de la politique avec la mort de notre frère, quoi.
Film sur les violences policières. Vos prises de position à l'époque ont suscité beaucoup de réactions. Vous expliquez, à l'époque, mon discours était plein de spontanéité. C'était peut-être une erreur. Ça m'a conduite à une forme de maladresse. Est-ce qu'il y a encore de la place pour la spontanéité ?
Je sais pas. Je sais pas comment répondre à cette
question. Vous faites attention à ce que vous dites ? Parce que c'est le cas de certains artistes. C'est vrai que les propos peuvent être complètement sortis de leur contexte. Et du coup, bah, ça peut bloquer certains artistes
à parler,
tout simplement.
Je comprends.
Et à être moins spontané.
Quand on voit la manière dont on paye quand on parle, je peux comprendre que ça freine aussi. Hein.
Et vous faites gaffe, du coup ?
Je m'autorise à dire des choses quand j'ai envie de les dire. Et puis, il y a des fois où j'ai pas envie de dire autre chose que « Regardez, je sors ce film » ou « Regardez, je sors une chanson
ouais. ».
Et j'adorerais que les personnes en face de moi l'entendent et le respectent, ce qui est assez rare, pour être honnête.
Donc, vous gardez quand même cette spontanéité, finalement.
Je m'écoute, quoi. Ouais. Si j'ai envie de dire des choses, je l'ai dit, je m'interdis pas de dire des choses que je pense, si j'ai envie de les dire, en tout cas, ça c'est sûr.
Et est-ce que parfois vous les regrettez quand vous les dites ?
Non. Non, je peux être maladroite sur la forme, mais non, comme je vous dis, parfois je me plante et puis moi j'ai pas la peur de l'échec pour le coup.
Ouais, mais quand on se plante.
Ouais, bah on apprend et on grandit.
On apprend,
et on
ouais.
fait mieux après.
Mais comme si on n'avait pas le droit à l'erreur, parce que c'est ça aussi, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur aujourd'hui quand on est artiste.
En tout cas, moi quand je fais des erreurs, je les paye et du coup j'apprends.
Camélia Jordana, on part maintenant en 2023.
Comme vous le voyez, je suis en plein traitement princier, littéralement.
Ah oui.
On est sur le shooting de Givenchy Parfums. Vous en êtes l'égérie en France. Vous incarnez les parfums et le maquillage. Une fois maquillée, vous vous sentez plus puissante, paraît-il. Se maquiller, c'est s'affirmer, séduire ou se protéger ou un peu tout ça.
Ça passe pas par la séduction, pour ma part. Pour moi, c'est plutôt très ludique. J'adore changer de tête. En fait, c'est une chose que j'adore. Voyez, un jour, vous me voyez avec les cheveux raides, un jour les cheveux frisés, un jour les cheveux courts, un jour les cheveux longs. Parfois, j'arrive en pull, parfois, je suis très habillée. Voilà, j'adore changer de tête, ça me fait beaucoup de bien. Et le maquillage sert aussi à ça, j'adore.
Et est-ce que ça vous donne parfois un côté plus puissant aussi ?
Oui, parce que ça protège, quoi, parfois. C'est-à-dire qu'il y a, c'est comme une armure, en fait. On s'invente, on est protégé par une chose qui est posée à même la peau et qui fait que la manière dont les gens nous perçoivent diffère. Donc c'est fort quand même.
C'est vrai que vous pouvez changer de make-up 5 fois par jour ?
Non.
D'accord. Non, mais on peut lire des conneries. On peut lire aussi des conneries dans certaines interviews.
Pas que je sache, 5 fois par jour, c'est beaucoup.
Alors,
ça m'arrive de changer. Ça m'arrive de changer plusieurs fois de make-up. Après, si, attendez, je réfléchis. Non, 5 fois, c'est énorme.
Je vous cite. Hein, ouais. Vous allez me prendre pour une folle,
ouais.
Mais je peux changer 5 fois de make-up dans la même journée.
Non.
D'accord.
Non, je peux changer plusieurs fois de make-up dans la journée, mais c'est pas parce que j'ai envie d'avoir 5 têtes différentes. C'est parce que le matin, je suis au sport. Ensuite, j'ai une promo, donc je vais être maquillée d'une certaine manière. Derrière, j'ai un casting, donc je vais avoir un maquillage qui correspond au personnage que je viens incarner. Et puis derrière, j'ai un rendez-vous avec une personne pour lequel il y a tel enjeu, donc j'ai besoin d'être perçue de telle manière. Donc voilà. Mais non, je suis pas avec mes 12 trousses de maquillage dans le sac pour adapter ma tête en fonction de mon rendez-vous. J'en suis pas là, enfin pas autant de fois dans la journée. J'ai 2-3 petits machins avec lesquels je fais mon affaire, mais non.
Camélia Jordana, on termine ce voyage en musique.
I get along without you very well. Of course I do.
Nina Simone, I get along without you. Nina Simone disait: je vais te dire pour moi ce qu'est la liberté. La liberté, c'est de ne pas avoir peur. C'est quoi pour vous, Camélia Jordana, la liberté ?
Ouais. Ah bah ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ouais. La liberté, c'est ne pas avoir peur.
Merci Camélia Jordana.
Merci à vous.
Reine-mère, le 12 mars au cinéma avec Camélia Jordana et Sofiane Zermani, un duo juste et explosif, un couple passionné, un film touchant et mordant qui interroge l'identité, les inégalités sociales, l'ambition, la famille. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous dans le rétro, c'est aussi en podcast. Passez un super bon week-end, prenez soin de vous, salut.